demander pour se faire.
Il est 20h01 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Sport. Vous êtes bien sur le 101.5 de Radio G. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine pour parler de l'actualité sportive. Au sein de sa chanson La Corrida, Francis Cabrel nous demandait: est-ce que ce monde est sérieux? Et à vrai dire, depuis une semaine, on peut se poser cette question, surtout depuis le début, enfin depuis le dernier match de Rafael Nadal. Cabrel dénonçait la corrida et la souffrance animale. Pas d'inquiétude, nous ne rentrons pas dans ce débat. Surtout que Rafa était les deux, à la manière de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. El Matador et le taureau de Manacor. Alors tel un matador face à sa proie, Rafa donnait le tournis à ses adversaires, les baladant sur l'ocre de la terre battue. Il distribuait banderille sur banderille, il ne laissait aucun espoir à ses adversaires blessés d'avoir parcouru des kilomètres essayant tant bien que mal de tenir son rythme. Il portait alors l'estocade finale pour remporter la partie après avoir fait danser ses rivaux, tout cela sous les hurrahs de la foule. Il se pouvait qu'à certains moments, Rafa soit poussé dans ses retranchements et le matador se transformait alors en taureau de Manacor en balayant le cours de long en large. Ce taureau intenable, inarrêtable, quand il sort de cette chambre noire, n'avait qu'à sentir l'odeur de la terre pour les faire tourner comme un soleil. Le torero a rendu sa cape définitivement, même si depuis quelques années, nous pouvions le voir s'éteindre à petit feu. Il nous reste plus que les souvenirs afin de revoir la flamme dans le jeu de l'espagnol, de ce matador, de la petite balle jaune. Hasta luego, Rafa. Je sais que Amaury qui est à ma gauche, que je présente ce soir en premier. Amaury, je sais que t'as quelques regrets d'avoir pas vu le dernier match officiel de Rafa.
Si, je te disais que j'avais pu le voir ce dernier match, mais au moment où on l'a vu, on n'était pas sûr que c'était ce dernier match. Et donc évidemment, quand après on voit que le double est perdu par Alcaraz, je me rappelle plus avec qui il était sur le terrain, mais peu importe, et qu'on sait que du coup c'est terminé, petit pincement au cœur. Évidemment, on aurait voulu, un peu à l'image de ce qui s'était passé avec Federer, qui jouait d'ailleurs avec Nadal en double pour son dernier match, où on était au courant, on savait ce qui allait se passer, et en fait la défaite, on l'avait oublié parce que c'était pas ça le plus important ce jour-là. Et donc du coup évidemment petit pincement au cœur et on gardera quand même beaucoup de souvenirs de Nadal tout au long de notre vie quoi.
Exactement. Est-ce que t'as quand même passé une bonne semaine à Morier? Est-ce que t'as joué ce week-end?
Et oui, un match ce week-end. Bon, une défaite de 4 buts de mon côté, mais j'étais plutôt content de mon match, donc c'était pas mal. Les filles ont gagné du club, elles ont de 5 ou 6 buts, je sais plus. Un beau match bien maîtrisé. Et puis moi, un événement cool ce week-end, on va
J'allais
dire.
Venir.
Le matin, J'allais le matin dire. Du match, je me suis levé samedi matin pour aller à une conférence sur le sport, donc animée par Laurent Luyat, avec Jérôme Fernandez notamment, qui était à cette conférence. Et à la fin, j'y suis allé au culot, je suis allé le voir, je me suis dit, est-ce que je peux faire une petite interview? Et donc on a attendu qu'il fasse un peu des photos, puis après on a fait une petite interview, ça a duré 5-6 minutes, et j'ai fait une petite vidéo.
Pour le club, pour ton club.
Pour notamment. Le club, voilà, ouais. C'est ça, pour le club.
Et, pour les réseaux
pour le club de hand. Et donc une petite vidéo de 5-6 minutes, de base, on a condensé ça un petit peu, mais voilà. C'était très cool, et en plus pour la petite histoire, j'avais fait un stage Jérôme Fernandez quand j'étais petit dans les Pyrénées.
Lui a dit, j'espère.
Je lui ai dit, et en plus on n'avait pas pu le voir parce qu'il reprenait sa saison, c'était la une des seules semaines où il était pas là, et je lui ai dit voilà, j'étais content de le voir maintenant, la belle histoire.
La belle histoire. Mathéo qui est en plus ce soir habillé d'une manière magnifique.
Bonsoir,
Star cravate pour Mathéo.
Bonsoir
pour
à tous. Bonsoir. Oui, ça va très bien. Comme t'as vu, je suis bien habillé ce soir, on va dire. Voilà, comme t'as dit, petit costard, on s'est mis bien par rapport à un oral à la fac. Voilà, tout simplement.
T'es en soirée Ligue des Champions.
Exactement.
On
va pouvoir en revenir. D'ailleurs, on a prévu de faire des petits pronostics.
Ah, j'espère bien.
Attention.
C'est vrai que la semaine dernière, on avait fait un pronostic, on s'était un peu raté sur le match changé par les Saint-Germain.
Ça serait dans cette émission si on savait faire des pronos.
On n'était pas raté.
Ouais, ça reste, exactement. Cédric est là aussi ce soir, Cédric est présent dans l'émission, on va pouvoir parler Formule 1 et rugby notamment avec lui. Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va nickel.
Ouais.
Grosse actu sportive forcément la semaine dernière.
Ouais.
Enfin pu voir ce que valait les Ducs sur la glace.
Exactement, on va en parler aussi ce soir.
Gros match contre Marseille. Très belle équipe de Marseille, franchement. Ça confirme ce que je disais en début de saison, qu'il fallait s'en méfier. Ah, au vu de ce qu'ils ont fait l'année dernière, mais en tout cas, ouais, une bonne soirée la semaine dernière à l'Ice Park, et puis bah ouais, petit match de rugby intéressant face à l'Argentine. Le Grand Prix de F1, on en reparlera.
Moins top.
Fallait des litres de café pour tenir.
Surtout le soir, en plus à Las Vegas.
C'est ça. Il y a 7h du matin pour nous.
Ouais, exactement.
Mais non, ouais, une bonne semaine niveau sport.
Bon, c'est
plaisir d'être là.
Ça fait exactement plaisir de te retrouver, Cédric, pour parler et débriefer de l'actu sportive. On va finir par la balle orange avec toi, Faustin. Comment vas-tu?
Salut Florian, salut tout le monde. Ça va forcément très bien après une victoire ce week-end.
Mais que de victoires avec toi.
De 18 points.
En plus.
Bah oui, une bonne claque qu'on leur a mis.
Ouais.
Mais et on joue notre dernier match ce week-end, sachant qu'on a assuré le maintien. On pourra jouer un tournoi qualificatif pour la régionale.
Oh, j'espère que ça va bien se passer. C'est quand le tournoi qualificatif?
J'en ai aucune idée.
Dès que t'as les dates, donne-les quand même, quoi, pour qu'on puisse venir te voir participer.
Avec plaisir.
Sans te mettre de pression, bien évidemment, en tout cas, pour parler de tout ça. D'ailleurs, Cédric en parlait juste avant. On va commencer avec le hockey sur glace, avec les Ducs d'Angers, parce qu'ils jouent ce soir, les Ducs d'Angers, en Coupe de France, ce soir, notamment du côté de Cergy-Pontoise, à 20h30. C'est le troisième tour, c'est le huitième de finale de Coupe de France pour les Ducs d'Angers. D'ailleurs, les Ducs d'Angers qui sortent sur 3 victoires en une semaine, tu le disais, Cédric, donc avec la victoire contre Marseille, 5-4, avec un début chaotique, quand même.
Alors, début, pas forcément chaotique, parce qu'on a vu d'entrée de jeu, du jeu.
Ouais, mais ils étaient menés quand même au score.
Ils étaient menés, en termes de score, sur le premier tiers. Mais dans la façon que le premier but arrive, ça part des deux côtés. Il y a vraiment, en plus, on a les deux meilleurs pointeurs de chaque côté. Donc, d'ailleurs, chose très sympa, je trouve, maintenant, c'est qu'ils ont des casques et des maillots spécifiques. Comme ça, on sait qui sont les meilleurs joueurs dans l'équipe en termes de but. Donc ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Quand tu viens avec quelqu'un, tu peux dire, bah ouais, lui, tiens, il a ce maillot-là pour ça. Enfin, ça ajoute un petit peu plus. Première période, forcément, compliquée au niveau score. Ça se réveille dans le deuxième, où là, ça revient, ça recolle bien. Troisième, commence à repasser devant, on se fait peur. Il reste genre une minute de match... Et là, ça a été la folie. Il y a ce but, ce cinquième but qui arrive comme ça, qui refroidit Marseille, mais qui enflamme l'Ice Park.
C'est le principal de voir une belle victoire contre Marseille.
Et puis, sur un point de vue arbitrage, très peu de fautes, très peu de prison des deux côtés.
Ah, donc c'était un match agréable à regarder.
C'était agréable, ça s'est un petit peu chauffé entre les joueurs, mais ça a été très vite calmé. Enfin,
raisonnable.
Ah ouais, non, franchement, j'ai pas les stats en termes de fautes de chaque côté. Mais franchement, il y a dû avoir deux pénalités de chaque côté en termes d'exclusion. Donc non, justement, ouais, bel état d'esprit des joueurs marseillais. En plus, eux qui avaient tout à gagner. Enfin, en plus, c'était le dernier match ou l'avant-dernier match où on avait nos joueurs suspendus. Donc ils avaient tout à gagner, ils ont joué franchement et on comprend mieux leur position actuellement à Marseille.
Au classement.
Ouais. Au classement. Alors je sais plus s'ils sont encore devant Rennes par exemple, mais en tout cas voilà, c'est pas démérité. Et je mettrais bien une petite pièce ouais pour les voir en play-off. Ouais.
Okay. Dans la foulée, Angers s'est déplacé à Anglet le vendredi suivant. Ils ont gagné 6-0. Et le dimanche qui suivait, bah deux jours après, donc il y a deux jours maintenant, il y a 48 heures, Angers donc recevait Amiens. Ils ont corrigé Amiens 5-0.
Dès le deuxième tiers,
c'était quasiment plié et acté. Donc ce soir, Coupe de France pour les Ducs à Cergy. Ils recevront aussi ce vendredi à 20h30 à l'Ice Park, donc Rouen. Donc on va avoir une belle affiche contre...
À mon avis... Comme d'habitude, belle affiche
sur le papier
et dans les tribunes.
Ouais.
Parce que là, même pour le, j'étais un peu étonné quand même. Marseille, voilà, qui est une nouvelle équipe, eh ben ça a fait déplacer les foules. Alors il y a sûrement les bons résultats, mais c'était sûrement plein le mardi dernier. Et là, on sait que de toute façon contre Rouen, bon, bah, c'est sûr, c'est. Il y a peut-être une ou deux places encore, mais bon, ça va être fou là.
Ça va être plié.
Ah ouais, ça va être.
Je vérifie le classement pour te dire, pour Marseille.
Marseille est cinquième.
Marseille est cinquième,
c'est là. Bon, bah, parfait.
Angers toujours deuxième.
Et Marseille, je voyais des matchs très, très serrés sur les 7 derniers matchs. 7 matchs qui se jouent à un but. Se joue à, des fois dans le bon sens, des fois dans le mauvais. Mais que des matchs serrés sur les dernières semaines.
Et alors, compliqué à jouer.
Leur
à Marseille.
Attaque en phare, là. Il est
vraiment costaud.
Il est costaud. Ah ouais, c'est.
Bon, bah, écoute, on verra si ton pronostic de voir Marseille en playoff. Donc de la Ligue Magnus
concrétisera. Ils seront dans les quatre.
Dans les quatre sûrs. Ok. Bon bah écoute, on verra. On prend acte. On est le 27 novembre. Et donc on pourra prendre acte de ces pronostics. 26 novembre, je crois, de mémoire même encore. On va continuer dans le hockey avec les roller hockey. Le roller hockey des Hawks d'Angers qui ont battu Rissa Orangis 4-3. C'est vraiment c'était vraiment important de se relancer, de gagner. Ça faisait quelques matchs que les Hawks donc ne gagnaient pas et la victoire les fuyait un peu. Belle victoire qui va leur faire du bien donc à nos amis des Hawks d'Angers. En hockey sur gazon, nouvelle défaite pour le SCO. 5-2 contre Barentin à l'extérieur donc du côté de la Haute-Normandie, donc 76. Le SCO est premier relégable en hockey sur gazon. Du côté du rugby, belle victoire pour le SCO à l'extérieur contre Le Mans, 29-21, avec le SCO qui est toujours leader donc de sa poule de Fédéral 3. En volley, belle victoire pour les masculins, encore une fois les garçons qui gagnent 2 victoires consécutives. Victoire à Sartrouville, 3-7-0, mais défaite des féminines à Sartrouville aussi également. Ils ont pu mutualiser un peu les déplacements pour du côté du volet masculin et féminin, 3-7-0 pour une défaite des filles. Mais voilà, l'important pour avoir discuté donc avec Salim Mélanie, le vice-président du club, voilà, la victoire masculine faisait du bien et était très importante. En tout cas, ça fait plaisir pour eux. On va passer au handball avec toi, Maury, avec une nouvelle défaite pour le SCO.
Ouais, une défaite, mais du mieux sur ce match, que ce soit collectivement ou individuellement, avec une très très belle performance. J'ai noté son nom parce que j'ai toujours du mal avec de Chérubin Tabanguet, qui a fait un 8-9 au tir. Donc très très belle performance, mais on a vu du mieux, des joueurs libérés sur j'ai pu voir des quelques vidéos, je connaissais quelqu'un qui y était, et vraiment des joueurs libérés. Alors après, on a eu une très mauvaise gestion d'un temps faible en deuxième période où l'écart se creuse et ça coûte clairement le match. Maintenant, si on continue de jouer comme ça, comme on l'a fait là, alors on était face à une équipe qui joue aussi
c'est ce que tu disais la semaine dernière,
qui joue la montée. C'est encore le cas au prochain match. C'est dommage. Là, on enchaîne.
T'es exempt ce week-end. Et Angers ne joue pas ce week-end. Ils sont exempts pour avoir regardé un peu le calendrier. Et tu dis, ils vont jouer le prochain match à domicile. C'est Frontignan.
C'est ça. Donc encore le leader qui a fait qui est en 10 victoires, une défaite si je me trompe pas. Donc compliqué. Et les matchs qu'il fallait prendre, c'était avant et face aux équipes qui jouaient à dernière place elles aussi. Et malheureusement, ça l'a pas fait. Mais bon, peut-être du positif et surtout. Une info au niveau du SCO avec peut-être le nom du prochain entraîneur pour remplacer Issam Tej qui a été où son licenciement a été officialisé cette semaine. Ce serait Fabien Courtial, donc ancien entraîneur emblématique de Saran pendant 13 saisons avec qui il a vécu 3 montées en D1 et qu'il a rarement réussi à se maintenir. Il s'est maintenu qu'une saison, une fois où donc il a fait 2 saisons de suite puis s'est redescendu, mais il a toujours joué le haut classement au minimum en D2 voire était en D1. Donc c'est un entraîneur qui est stable, qui est plus calme qu'Issam Tej, et je pense que c'est quand même ce que le SCO a besoin pour repartir sur de bonnes bases.
Et c'est important pour
surtout voir son projet en fait aussi autour.
Ouais, bien sûr.
Mais au vu de comment il est resté quand même longtemps dans un club, je pense pas qu'il vienne juste comme ça pour
peut-être amener de la sérénité.
À moins qu'il vienne juste pour un projet maintien pour sur une saison, mais je sais pas, j'ai une impression que ça peut être une bonne personne. J'en ai entendu parler, j'en ai parlé à quelques personnes qui le connaissent un petit peu. Ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Et après, c'est pas officiel.
C'est une rumeur pour l'instant, mais qui n'est pas encore officielle pour le club du SCO. Frontignan, donc le leader, le prochain match à domicile. Ils vont jouer Limoges ensuite en Coupe de France, qui est une équipe donc de première division, qui est en plus en milieu de tableau. Donc
ça pourrait même être un peu plus haut. Ils sont Limoges, mais bon, le milieu de tableau de D1 face à une équipe dernière de D2, ce sera un exploit de les battre. Ça pourrait être beau, ça pourrait peut-être donner de la confiance. Mais bon, je pense que c'est pas là l'essentiel. Aujourd'hui, c'est aller prendre des points en championnat.
Et puis après, tu vas à Valence et tu reçois Nancy pour finir l'année 2024, en tout cas, du hand sur Angers. Deux équipes de milieu de tableau en plus de Pro League. Il faudra prendre des points là-dessus.
Absolument débloquer le compteur de victoire sur l'un de ces deux matchs.
C'est ce que j'allais te dire. C'est vrai que c'est important pour le club du SCO de au moins prendre des points encore dans cette fin d'année 2024. On va passer au basket avec toi, Faustin, avec une défaite pour l'UFAB.
Ouais, défaite 73 à 64 contre Charnay, qui était donc première au classement. Ce match allait définir qui allait rester seul en tête de ce classement de Wonder League Boulangère. C'est donc Charnay qui l'emporte et devient leader.
Oui, les deux se disent, allez.
Donc du championnat parce que
premier Bourges, du classement voilà ouais.
Parce que Bourges a perdu parce que les trois équipes étaient à égalité mais voilà, c'est une deuxième défaite d'affilée, les deux seules défaites de l'UFAB dans ce début de saison. Rien de grave, c'est face à deux grosses équipes, c'est déjà un excellent début de saison qu'on n'a pas vu depuis longtemps du côté des Angevines.
Et j'étais aussi du côté de la salle de l'EAB vendredi soir pour voir le trophée Coupe de France avec l'EAB, la 2 de l'EAB, la N3 de l'EAB qui malheureusement s'est inclinée contre Laval, 77-57 de mémoire. Donc voilà, c'était compliqué pour les jeunes de l'EAB, mais c'était une manière de prendre de l'expérience selon le coach de cette équipe de National 3. Donc voilà, il y avait quand même des beaux gabarits en face de National 2, une belle équipe expérimentée avec des anciens. Donc voilà, ça a été dur pour eux, mais voilà, c'était intéressant en tout cas à voir du côté de la salle Jean-Bouin vendredi soir pour le trophée Coupe de France. Pas de Cholet ce week-end, enfin parce qu'ils sont pour l'instant c'est une petite trêve internationale. Ça leur fait du bien, je pense, de se reposer pour repartir de plein pied dans cette fin d'année. Parce que on va quand même en parler. Cholet, c'est quand même une grosse performance depuis le début de la saison.
Ah bah oui, ils carburent carrément en Betclic. Ils sont premiers du championnat tout simplement. Ouais. Pareil en Europe où il me semble qu'ils ont perdu un match quand même, mais sinon ça tout roule.
Le contenu est magnifique.
Voilà, ça joue très bien au basket. C'est peut-être là où ça joue le mieux.
Ouais, actuellement.
Pour l'instant, Betclic Elite. Donc ça fait plaisir à voir. J'irai peut-être voir un match à la mairie, un de ces quatre.
Ah bah ouais.
J'essaierai de voir un match intéressant. Je vous tiens au courant, mais ça me ferait plaisir de voir du beau basket comme ça à Cholet. C'est en général Cholet, c'est quand même. Ça propose du beau jeu en général, et quand ça gagne,
ça forme bien en plus.
Bah ouais,
c'est ça forme très bien. Donc voilà, on parlera sans doute avec toi rapidement aussi de Betclic Elite, parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure un peu en off. C'est vrai qu'à Monaco, il y a eu un changement d'entraîneur, donc ça peut être intéressant aussi à évoquer rapidement en fin d'émission tout à l'heure. Au football maintenant, la Coupe des Pays de la Loire ce week-end, c'était Beaucouzé contre Changé. Beaucouzé s'est incliné 3-1. Brissac s'est imposé donc 2-1 contre Sablé. La 2 de Sablé en Coupe des Pays de la Loire. Il y avait la Coupe de l'Anjou aussi, avec le foyer de Trélazé qui s'est imposé 4-0 contre Avrillé. Saint-Barthélemy a perdu contre Beaupréau 2-1. Chalonne 4-0 contre le Pumazé. Juigné-Loué a perdu contre l'Intrépide d'Angers 3-0. J'allais dire 3-7-0. Mais 3-0. Le SCA.
Ça, c'est le tennis, la tatou.
Exactement. On mélange tous les sports dans Génération Sport. Donc, le SCA s'est incliné au pénalty contre Montreux-Juigné 4-1 après avoir fait un partout dans le temps réglementaire. Angélac de Maine a perdu contre Seiche-Marseille 4-1. Saint-Sylvain d'Anjou s'est imposé contre Sainte-Melaine à 4-3 au tir au but après avoir fait un but partout dans le jeu. Et Molévrier a perdu contre la Vaillante d'Angers 1-0. C'était en coupe donc de l'Anjou. Et en U19, le SCO s'est imposé contre Rennes 1-0. Et Beaucouzé était exempt. On va pouvoir maintenant parler du SCO, puisque le SCO s'est incliné ce week-end dans le temps additionnel, vraiment fin de match. C'est triste parce que dans le contenu ça avait l'air d'être quand même assez intéressant, mais Mathéo, tu le disais, Auxerre est quand même une équipe enquiquinante à jouer, on va dire, et elle propose quelque chose, et au final elle a réussi à battre le SCO dans le temps additionnel.
Ouais, c'est assez cruel, franchement, cette rencontre. Hein. C'est vrai que le SCO a montré des belles choses, notamment au milieu de terrain. On a eu un super tandem Aolu Belkebla qui a très bien fonctionné. Ouais. Honnêtement, ils ont réussi à très bien contenir justement cette équipe d'Auxerre qui joue beaucoup aussi sur la profondeur et la verticalité. Donc en passant forcément par ces milieux de terrain, ça c'est une obligation, ce qui aujourd'hui a bien été, enfin aujourd'hui dimanche plutôt, a bien été contenu. Il y a vraiment du positif, surtout qu'en plus Bumla était pas là, hein, il était absent, hein, il est revenu blessé les U19 je crois avec lesquels il était pas en sélection. Ouais. Donc voilà, donc il est revenu blessé, on a dû sortir un vieil individu du placard, j'ai envie de dire, à savoir Monsieur Bamba, quand même, qui je sais plus combien de fois il a été titulaire cette saison, mais c'est pas grand, et du coup qui a quand même bien géré, il a été beaucoup sobre quand même là-dessus, à ce niveau-là. C'est vrai que forcément, quand on sort quelqu'un du placard directement titulaire dans une rencontre aussi importante, fallait jouer sobre, et il l'a bien fait, il l'a très bien fait honnêtement. Voilà, donc cette équipe d'Angers a été globalement intéressante. Mmh. On a eu quand même des joueurs qui ont pas été très en vue, je pense forcément à Abdelli, je pense aussi à Nian, même si Nian, moi je le trouve quand même très intéressant, à chaque fois je le dis, mais
dans ce
jeu de combinaison, ouais, c'est vrai que même la semaine dernière, hein, j'ai dû le rappeler aussi, parce que on a peut-être pas parlé du SCO la semaine dernière.
Non, on l'a rapidement évoqué, mais ouais. C'était surtout il y a 15 jours suite au match contre Paris. Hein.
Bon, en tout cas, Nian, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je redécouvre en fait, hein, un peu comme tous les Angevins, je pense, et qui fait une saison intéressante, qui a quand même été beaucoup cadenassé dimanche. Donc,
il doit faire mieux, Nian, sur sa tête en fin de match.
Ah oui, bien sûr.
Franchement, il doit la mettre au fond. Il a une tête aux alentours de la 70e, je crois. Il doit pouvoir la mettre au fond et ouvrir le score pour le SCO. Franchement, c'était vraiment deux malsons.
Bah, surtout dans cette course au maintien, il va falloir marquer des points assez rapidement un peu partout. Et c'est que quand tu as des opportunités de marquer, il va falloir les mettre, parce que il va falloir se battre jusqu'au bout, en tout cas.
Je pense aussi à El Melali en tout début de match. Il y a une frappe point de penalty tout seul qui tire. Comment il s'appelle, le gardien Auxerrois, je ne sais plus, mais puis il tire plein centre. C'est ça. Mais il tire plein centre dessus. C'est des petites occasions qui sont dommages quand même pour le SCO.
Ouais, bien sûr. Après, El Melali n'est pas un excellent finisseur. Par contre, il a des fulgurances qui sont assez inexplicables, j'ai envie de dire. Franchement, il est capable de te mettre des frappes assez impressionnantes. Mais par contre, bah là, on l'a très bien vu. La finition, c'est pas non plus le point auquel il excelle le plus. Par contre, je vais rebondir sur ce que t'as dit, Flo. Ouais, le SCO doit prendre au minimum un point sur cette rencontre, parce que la copie, elle est quand même intéressante.
Ouais.
Notamment, du coup, Junior Traoré, hein, qui est quand même le gros joueur du côté d'Auxerre. On en parle souvent, mais c'est un mystère qu'il soit là-bas. Ce joueur-là qui fait réaliser un début de saison énorme et qui est buteur, hein, à la fin du match d'ailleurs, il a été complètement muselé pendant une bonne partie de la rencontre. Donc ça aussi, c'est quand même des choses qui sont intéressantes. On a vu aussi Over, du coup, moi dont je parle à chaque fois, qui est le latéral droit prêté par Wolverhampton, qui a été ultra intéressant offensivement, mais défensivement vraiment à la peine. Donc ça veut dire que le SCO était quand même capable de marquer des points face à des joueurs qui sont peut-être de futurs internationaux. En tout cas, lui est international espoir néerlandais. Donc voilà, il y a plein de détails dans cette rencontre qui sont intéressants. Maintenant, les changements d'Alexandre Dujeu ont fait que, puisque c'est des changements beaucoup plus offensifs que la composition de base. Hein. Arcus sort, Raoul Izoa rentre, donc qui est beaucoup plus offensif que Karlen Arcus aussi. Et puis derrière, on fait rentrer deux buteurs en fin de match, donc Bamba Dieng et Esteban Le Poll. Donc voilà, il y a quand même ces choix-là qui sont discutables. Honnêtement, pour un club qui joue le maintien, est-ce que tu dois aller chercher un point? Est-ce que tu dois aller chercher les trois points, sachant que c'est possible? Je sais pas ce que vous en pensez de ces choix-là.
Attends, t'as un avis là-dessus ou pas?
Bah, au vu de la physionomie du match, ça pouvait passer. Je pense que si c'est passé dans la tête d'Alexandre Dujeu, le souci, c'est peut-être que les joueurs n'ont pas été concentrés jusqu'au bout sur la dernière action. Il y a trois attaquants à la surface angevine qui sont un peu oubliés, et c'est comme ça que le but arrive un peu assez facilement. C'est dommage. Ça arrive qu'à la toute fin du match et que le SCO ait pas le temps de réagir, même si ça a failli quand même. Mais oui, je pense que dans la tête d'Alexandre Dujeu, c'était ça allait passer au vu des occasions et de la physionomie du match, ça pouvait le faire.
Amaury.
Ouais, mais ce que tu dis en fait, c'est que le SCO pendant tout le match, ils ont été plutôt sereins défensivement.
Ouais,
il n'y a pas eu énormément de fulgurance offensive à part les deux occasions où je pense qu'on doit pouvoir mettre au fond. Il n'y a pas eu énormément de fulgurance offensive, mais on a été là dans le pressing en première mi-temps. On a énormément embêté Auxerre qui est une très bonne équipe, mais qui, je pense, n'est pas la plus à l'aise quand elle doit faire le jeu. C'est souvent ils ont fait des bonnes performances. C'était pas eux qui faisaient le jeu forcément. Et là, ce week-end, bah, face à Angers, ils devaient faire le jeu. Angers a bien réussi à les presser. A été serein défensivement. Et par contre, du coup, faire un oubli comme ça, 92e, laisser ouais, quelqu'un au second poteau. Ou quand tu regardes le ralenti, en fait, il sait même pas qu'il a quelqu'un derrière lui. On a l'impression. Je sais plus qui est.
C'est Raoul Izzo, voilà, en plus, qui venait de rentrer, donc on n'a pas cette excuse aussi.
C'est vachement frustrant. Tu disais des fêtes cruelles au début. Je pense que c'est le mot. C'est cruel. C'est
comme la saison passée.
Angers méritait au moins de prendre un point. Était, je pense, sur ce match meilleur que le sert.
Tu te retrouves 17e au classement maintenant, il va falloir se méfier et prendre des points très rapidement dès dimanche. Dimanche 17h, match contre Le Havre là-bas au stade Océane. Victoire impérative les garçons. Cédric, est-ce que tu as un avis là-dessus?
Forcément, de toute façon maintenant, il va falloir chercher jusqu'à la trêve de Noël le maximum de points. Après voilà, c'est un peu le problème de ce nouveau championnat. On voit les écarts sont tellement nul en termes de... Enfin, ça joue à 1, 2, 3 points, quoi, grand max. Avant ce match-là, on est bien dans le classement, il n'y a pas de souci. Et là, une défaite d'un petit but, ça nous remet avant-dernier, quoi.
Ouais.
Sachant que, bon, Montpellier, c'est encore un peu malade. Il y a de les améliorations. Au-dessus, on a un Nantes qui est très souffrant. Donc on peut gratter petit à petit voilà des places, mais au-dessus c'est Rennes. Ouais, Rennes. Quid du nouvel entraîneur?
Rennes, on va voir réellement
si est-ce qu'il va avoir des étincelles ou est-ce que ça va rester dans ces places là ou monter légèrement et ça va se maintenir.
Le problème de Rennes, c'est que tu vas les jouer au moment où en fait il aura eu le temps de prendre un peu son groupe en main aussi, donc c'est ça qui est dommage. Donc
tout dépend comment en fait la mayonnaise va prendre dans les débuts de Sampoli et donc à voir, mais en tout cas ouais, c'est au vu du scénario, oui, c'est cruel. Au vu de la nouvelle vision de ce championnat, c'est cruel. Alors voilà, tu fais un petit faux pas, bah tu peux, ça se trouve ce sera ce match là qui nous fera que on reste pas en Ligue 1, quoi.
Et le match face au Havre, comme l'expression le dit, c'est un match à 6 points clairement. C'est un gros concurrent pour le maintien, qui doit être 1 ou 2 points devant le SCO. C'est clairement un match qu'il faut absolument prendre, surtout ne pas perdre. Si là-bas on fait un match nul, c'est peut-être dommage. On peut s'espérer mieux, mais en tout cas, ne surtout pas perdre face au Havre.
Un point, c'est tout. Voilà. Pour l'instant, un minimum. Voilà, un point, c'est tout. Et puis. L'avantage dans cette fin d'année 2024, c'est que tu vas voir peut-être l'un des derniers matchs de Ryan Cherki en France. Ça c'est pour notre cher ami.
Non, dis pas ça, Mathéo. Non. Il va rester, moi j'en suis sûr.
Il se fait marquer de la tête.
À 40 barres, je pense que le club a tellement besoin d'argent que je.
Là, à ton avis, d'où le costume aujourd'hui, hein, il a été
négocié le transfert de Ryan Cherki.
Parce que là, après, je vais regarder une vidéo de Ryan Cherki, c'est pour ça que j'ai sorti le costume.
Tu peux en faire un don à l'OL, du costume, ils en ont peut-être besoin.
Non, dont tout court.
Mais c'est vrai que ça sera le prochain match à domicile, en tout cas pour le SCO, ça sera contre Lyon. Tu crois ça ou pas?
Bien sûr.
Forcément.
Marquage.
C'est vrai?
Ouais, bien évidemment.
Ah, bah, c'est bien. Non, mais tant mieux. C'est vrai que, au moins, tu suis ton club jusqu'au bout, quand il vient dans ta ville. Et franchement, c'est tout à ton honneur, en tout cas, Mathéo. Est-ce que vous avez d'autres envies de parler du SCO, ou de la Ligue 1, avant qu'on fasse une petite pause? On peut faire la pause maintenant et on parlera de la Ligue 1 juste après. Qu'est-ce qu'on écoute, Faustin? C'est le DJ de l'émission maintenant.
On va s'écouter un titre très récent, ça va être Squabble Up de Kendrick Lamar, ça vient de sortir.
Bonne surprise.
I am reincarnated, I'm a stargazing, life goes on, I need all my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my CIP. Ownership, the blueprint is by me. Mr. Get off, I get off at my feet. Couldn't try me in a tri-state. Money pass, but I get him splashed till he hydrated. Bounce out, know he spook town, eyes dilated. I got the money and the power, both gyrating. I feel good, get the fuck out my face. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with a size. Man, don't let me know what the play. What the fuck, I got hits, I got bucks, I got new paper cuts. I got friends, I got foes, but they all sitting ducks. Hit his turf and get cracked and double back like a deluxe. 50 deep, but it ain't deep enough.
fuck a plea, there you go, beat him up. Falling from a money tree, and it grew throughout the month. Spit a loogie at the camera, speed off, yeah, it's us. I feel good, get the fuck out my face. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what the price. Squabble up, 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 squabble up. Hold up, where are you from? My bitch, I'm finna go dumb. Sideways, bunk stomp, Viva, I'm on one. Thunk, 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 baby rockin' it. Quid pro quo, what you want, cause I'm watching it. On the flow, let me know if you clocking it. Brody won't go, but I know that he popping it. It was Wolf tickets on sale till I silenced it. Pipe down, young, these some hoe with the politics. Bitch with him and some bitch in him, that's a lot of bitch. Don't hit him, he got kids with him, my apologies. Ghetto child, here was Blackie Miles with a smear enough. Hee high, we outside, what they about to kill him off. Blaps on blaps, it's a fact, this a brick or all. Tell me why the fuck you niggas rap if it's fictional. Tell me why the fuck you niggas fed if you criminal. Hey, Dot, can I get a drop? I'm like, nigga, nah. Hey, boom, coon from the west side to Senegal. It's a full moon, let the wolves out, I've been a dog. I feel good, get the fuck out my face. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what the price. Squabble up, 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 squabble up.
Squabble up de Kendrick Lamar. Merci Faustin. Voilà. Ce que je disais en antenne, c'est qu'il prend toujours des titres où j'ai du mal à aller dire, mais là je m'en suis pas trop mal sorti. Donc, ouais, donc voilà, album surprise que tu disais à Maury, donc de Kendrick Lamar, c'est ça?
Bah je suis pas énormément Kendrick Lamar, mais ce que j'ai compris, c'est un album qui était pas forcément attendu, qui a pop un peu comme ça sur les plateformes, et donc je connais quelques personnes qui étaient très contentes.
Qui étaient très contentes de la sortie de l'album donc de Kendrick Lamar. On fait pas parler que de football dans l'émission ou d'autres sports, d'autres disciplines, mais en tout cas on va continuer à parler Ligue 1 puisqu'on était sur le SCO juste avant. Et donc on va parler de ce qui s'est passé ce week-end avec toi, Mathéo, sur la Ligue 1.
Bien sûr, donc le grand retour de la Ligue 1, ça y est, 12e journée hein, déjà de championnat, et on commence vendredi, donc avec la victoire de Monaco sur Brest, 3-2, la victoire du PSG également sur Toulouse, 3-0. Samedi, Lens a perdu à domicile face à Marseille, 3-1. Saint-Étienne piétine les idées de remonter Montpellier-Rennes, 1-0. Reims et l'OL se quittent sur un match nul, 1-1. Dimanche, Lille a enfoncé un Stade Rennais plus que jamais en crise, avec en prime la blessure d'Alidou Seydou, pardon, rupture des ligaments croisés pour le Ghanéen, c'est assez terrible. Nantes a connu un après-midi compliqué aussi à la Beaujoire, on va peut-être pouvoir en revenir un petit peu dessus, justement, défaite 2-0 face au Havre, et surtout de cette tentative d'envahissement de terrain par les supporters mécontents et frustrés. On apprendra d'ailleurs après le match, et c'est une info venue de nos confrères de Ouest France, que le ministère de l'Intérieur souhaite dissoudre la Brigade Loire. Pour revenir un petit peu sur le foot, Auxerre a battu le SCO, donc, et puis en clôture de cette journée, Nice s'est imposé à domicile 2-1 face à Strasbourg. Autour de la table, est-ce qu'on a consommé de la Ligue 1 autre que le SCO ce week-end, j'allais dire cette semaine, non, ce week-end, c'était bien ce week-end, Amoury.
Alors moi, j'ai pu voir la première mi-temps de Marseille-Lens, donc pas la meilleure mi-temps pour Marseille hein, sur les deux du match, parce que après, bah, j'avais mon match, donc du coup, bah, place à l'échauffement, j'ai pas le téléphone en bord terrain.
Comment ça?
Mais donc, bah, sur cette première mi-temps, un Marseille en grande difficulté, qui avait du mal à trouver ses attaquants. Lens était tout simplement meilleur dans quasiment tous les compartiments du jeu, mais Lens n'a pas réussi à ouvrir la marque comme ils auraient dû le faire sur cette première mi-temps. Marseille aurait même pu, si Nil Mopé avait été clinique, faire un hold-up sur la première mi-temps. Maintenant, je sais pas si Flo, toi, t'as pu voir tout le match. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus dans l'avantage de Marseille. Nil Mopé, qui avait raté cette occasion en première mi-temps, a offert deux belles passes décisives pour Rongier et pour Luis Enrique juste derrière. Et après, une fin de match très cruelle pour Lens. Moi, ça m'a fait plaisir, mais je me suis mis à la place d'un Lensois. Se voir un but annulé, puis derrière, on revient à la faute devant sa propre surface et on prend le coup franc direct pour ces matchs 3-1. Flo, je sais pas si je te demande de raconter ce moment.
Non, mais alors déjà... t'as raison sur la première mi-temps, Lens méritait complètement, mais le problème c'est que Lens n'a pas d'attaquant, enfin n'a plus d'attaquant, et il y a des joueurs qui, Enfin, Nzola, c'est un bon joueur et le problème, c'est que pour l'instant, il n'est pas décisif. Et Sotoka, pour moi, même si c'est une légende maintenant du Racing Club de Lens, il a plus l'âme d'un titulaire et il a plus, en tout cas, même s'il est, il se défonce sur le terrain pour ses coéquipiers, pour le collectif. Malheureusement, devant le but, on lui demande de marquer des buts et il n'en marque plus et c'est triste. Donc voilà. Donc cette première mi-temps, oui, elle est là, elle est archi dominée et tu l'as dit, Mopé peut tuer le match en fait dès la première mi-temps. Autour des vestiaires, voilà, tu prends deux buts. J'ai éteint ma télé hein, direct. À 2-0, j'ai éteint ma télé et je rallume la télé donc au moment du but de Chudjini. Donc
j'ai de la chance. Cafouillage. Oh là 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 là.
J'ai de la chance et je crois que j'ai éteint ma télé en fin de match direct parce que voilà,
je comprends.
De rage complètement. Après, enfin, il y a des choses qui se sifflent, il y a des choses qui se sifflent pas. Enfin bref, c'est compliqué. Après, il y a mon côté supporter aussi qui ressort et donc
parce que moi je te dis qu'il y a faute tous les jours. Hein.
Ah non mais voilà. Donc voilà, bref, c'est comme ça, c'est la vie et puis.
Ça a été un peu le discours d'après match. Hein. En termes de gestion de la VAR et des fautes,
mais pour Lens, ça restera toujours un mystère.
C'est vrai, compliqué.
C'est vrai. En fait, l'arbitre, je pense, il doit pouvoir la voir. En plus, il est bien placé. S'il doit pouvoir voir cette faute-là, clairement, c'est ça qui est dommage.
L'action derrière, elle a duré longtemps.
Ça va à l'autre bout. En fait, c'est devant une surface, ça arrive à l'autre bout.
Ouais, bien sûr.
Et surtout, c'est même pas sur. Je crois qu'il doit y avoir un centre.
Ça ressort.
En fait, à quel moment t'arrêtes, tu retournes à quelque chose.
En fait, c'est quand c'est sur la même action.
Mais bon, dans ces cas-là, tu le fais sur toutes les actions et sur tous les matchs.
Par contre, ce qui est vrai, c'est que
problématique, on est sur du football.
Ce qui est vrai, c'est que si le ballon sort en touche, que la touche est jouée très rapidement et que ça ne change quasiment rien à l'action, on ne peut plus revenir.
Donc
c'est ça où en fait, évidemment, c'est des petits trucs. Là, ça sourit à Marseille. C'est mauvais pour Lens. Ça tournera dans d'autres sens à d'autres moments. Mais c'est vrai que en tant que supporter, quand ça t'arrive. Quand ça arrive, c'est vrai, c'est très frustrant.
C'est dur, mais bon, après, c'est comme ça. Il y a d'autres facteurs qui font que Lens est pour l'instant est dans cette situation-là. Et donc, on en parlait la semaine dernière, il y a clairement des joueurs qui vont devoir, à un moment donné, qu'on va devoir vendre pour pouvoir avancer aussi et pour pouvoir répondre au fair play financier, en fait, aussi. Donc, tout ça.
Et juste pour revenir un dernier petit mot sur Marseille, j'ai bien aimé, moi, l'adaptation un petit peu de Roberto De Zerbi, où il ressent un petit peu Mason Greenwood, il décharge un peu de tâches défensives sur le couloir, il ajoute Valentin Rogier au milieu de terrain. Alors oui, on perd un petit peu en créativité, ça a manqué en première mi-temps, parce qu'on n'a pas un Harit ou quelqu'un qui va venir en sorte de numéro 10, mais par contre, Rongier défensivement, il pose le jeu.
Ouais. Mais pour moi, tu seras toujours plus fort. L'OM sera plus fort avec Højbjerg, Rabiot et Rongier.
Et donc derrière Greenwood.
T'as besoin d'avoir trois joueurs d'expérience comme ça au milieu de terrain
Greenwood recentré, moi j'aime bien en plus.
Ah, en 10.
C'est franchement, il était pas totalement 10, mais c'était, ça dépend.
Il jouait vraiment au cœur du jeu quand même.
Mais voilà, donc c'est Greenwood comme ça, j'ai vraiment bien aimé. Maintenant, derrière, ce qui me manque aussi devant, c'est un attaquant qui est capable de finir les actions parce que bon, Mopé, c'est courant alternatif. Wai, courant très alternatif. Donc c'est toujours la même chose aussi devant pour Marseille.
Ouais, après, il est obligé de faire des choix. De toute façon, De Zerbi, voilà. Il a fait des choix et clairement, de toute façon, Rabiot est en train de monter en puissance.
Bon match de Rabiot.
Clairement, je veux dire, à la fin de l'année, il faudra vraiment se poser la question de le faire. Bon, est-ce qu'on le garde une année de plus ou est-ce qu'on le vend? Ce que je veux dire, c'est lui aussi. Alors, ça.
On l'échange avec Paul Pogba.
Donc on verra ça, mais voilà. En tout cas, c'est sur la Ligue 1, je me suis vraiment attardé sur Lens. J'ai regardé un peu Paris aussi. De toute façon, Paris, on va en parler après parce que Paris va jouer ce soir, donc voilà quoi.
Le gros choc hein, de cette soirée de Ligue des Champions. Il y a juste peut-être un sujet sur lequel on peut revenir un petit peu sur qui a marqué aussi ce week-end de Ligue 1, c'est l'arbitrage forcément. Encore une fois, on en parle assez souvent hein, dans l'émission, mais c'est vrai que là encore ce week-end ça a été assez marquant, notamment donc ce cas hein, ce fait de jeu lors de Lens Marseille. On a eu également, voilà, moi ça me permet d'en parler aussi, de ressortir cette frustration, le cas lors de Lyon-Reims hein, on a eu quand même ces deux pénaltys qui sont, alors pour un au moins flagrant, honnêtement, peut-être même un carton rouge à un moment du match, mais ça c'est pareil, c'est une question d'interprétation, moins que sur des pénaltys en tout cas. Donc et puis on a eu aussi la déclaration de Maxime Lopez avec le Paris FC. Donc voilà, c'est un week-end qui a encore été marqué justement par l'arbitrage. C'est assez triste. Est-ce qu'aujourd'hui on a réellement des choses qui peuvent évoluer pour justement permettre en France au moins, puisque c'est moins le cas, j'ai l'impression quand même dans les autres championnats, de justement d'avoir des week-ends plus corrects avec moins d'erreurs.
Je suis pas sûr que dans les autres championnats ce soit forcément mieux. Mais disons que
c'est moins flagrant.
C'est moins flagrant, moins récurrent, c'est ça. Aussi, hein.
On entend peut-être moins parler aussi.
C'est ça aussi, oui. Après, nous, pourquoi on se focus là-dessus? C'est parce que derrière, t'as aussi les supporters qui mettent leur grain, qui, comme tout le monde, hein, après, on a tous, il y a 3 milliards de sélectionneurs, il y a 3 milliards d'arbitres, j'ai envie de dire aussi. Mais c'est vrai que des outils comme la VAR, je trouve qu'en France, il n'y a pas de formation.
Ça, c'est évident. Les arbitres ne savent pas comment l'utiliser. Ils savent pas l'utiliser. C'est flagrant à chaque action.
Quand ils l'utilisent, une fois sur deux, ça prend des plombes, c'est mal utilisé, parce que ils vont décider que ce sera tel angle de caméra et pas un autre, alors que l'autre angle de caméra, finalement,
est meilleur,
et on voit plus de choses. Et en fait, ils ont tellement, et déjà, il faudrait arrêter cette règle qui est complètement débile, ils sont pas à l'école, qu'on arrête de les noter et de les sanctionner s'ils font un sale match. C'est des humains. Les joueurs, ils font un sale match, ils sont sanctionnés par le résultat. Point barre. Eh ben, eux, ils font un sale match. Quelque part, dans le rapport, après, bien sûr, on peut leur faire dire montrons en disant, tiens, ben, finalement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de débrief pour les arbitres. On fait un débrief dans la semaine avec tous les arbitres. Comme ça, ils peuvent échanger. Enfin, alors, je sais que tout le monde n'est pas professionnel comme arbitre. Il y en a qui sont plus ou moins amateurs, enfin, qui ont double profession, mais on ferait déjà des stages comme ça quand c'est les intersaisons, les périodes équipe de France, enfin tout ça. Il y a plein de périodes où ils peuvent continuer de la formation, les former sur la VAR, les former sur certaines actions litigieuses. Enfin il y a plein de petites choses à mettre en place.
Ouais, mais pour moi en fait le truc c'est le problème c'est la règle. C'est qu'en fait le truc c'est trop de règles qui sont sujettes à interprétation. Et donc d'un côté t'as Madame Frappard qui va décider de cette interprétation là pour cette action là, mais pour la même action Monsieur Bastien ou Monsieur n'importe qui va décider de mettre cette interprétation là. Le problème c'est qu'il y a pas de continuité dans cette décision de règle et c'est ça qui procure peut-être cette incompréhension chez beaucoup et chez les joueurs notamment aussi. C'est qu'au final une action, l'action A va être la même dans l'action B dans un match différent, mais il y aura pas la même décision à la fin. Et je pense que c'est ça qui manque de clarté pour les joueurs, pour les entraîneurs, mais aussi pour les spectateurs et pour nous aussi en tant que suiveurs, en tant que journalistes ou en tant que spectateurs ou en tant que amoureux du foot. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est
pour ça que ce serait une bonne solution que les arbitres puissent se rencontrer régulièrement et pouvoir échanger.
Au hand, est-ce qu'il y a c'est en fait une action et décider quand même, il y a une règle, en fait, mais c'est souvent la même ou pas?
Il y a des règles et je pense que ça a été clarifié en plus au hand sur les dernières années, notamment là où il y avait plusieurs controverse, c'était au niveau des mains au visage, des ballons dans la tête des gardiens. Les règles ont été plutôt bien établies maintenant, même si ça reste que des fois entre le 2 minutes et l'exclusion, sur la même chose sur deux matchs différents, il y aura pas là exactement la même sanction. Mais même avec les caméras, le même arbitre qui voit la même chose sur deux fois en fonction du contexte du match, en fonction de tous les l'environnement autour de lui, il prendra pas la même décision. Et je pense que ça, c'est parce qu'on est des humains, on n'est pas des machines. Mmh. Et on a beau avoir un règlement qu'on connaît par cœur, tout le contexte qu'il y a autour influe forcément. Et donc, ça pourra jamais être parfait à 100%. Maintenant, c'est sûr qu'il y a au foot, il y a, je pense, une clarification des règles qui peut aider. Et là, ça concerne pas la VAR, mais moi, parce que là, ce qu'on tient dans la main, le micro, rien que pour que le supporter comprenne plus ce qui se passe et que derrière ça. Ça envenime peut-être moins les choses autour des arbitres.
Conférence de presse, tu veux dire?
Voilà. Le micro sur l'arbitre.
Le micro, oui, d'accord.
Et pourquoi pas qu'ils viennent s'expliquer après. Qu'un arbitre s'explique s'il y a eu une situation très litigieuse où il y a besoin, sinon c'est scandale. Pourquoi pas? Faut pas non plus qu'à chaque fin de match, l'arbitre, il vienne dire j'ai fait ça, parce que. L'arbitre, c'est pas son rôle non plus de devoir expliquer, c'est l'autorité sur le terrain.
Ouais, moi je trouve ça intéressant quand même. Ce qu'on a dans les émissions là, notamment avec DAZN en fin de match, moi je trouve que c'est un plus quand même.
De temps en temps, je pense pas que en fait qu'à chaque match faut puisse revenir et qu'en fait ce soit plutôt en mode le l'abattoir de l'arbitre où il est obligé de s'expliquer et si l'explication elle tient pas sur un truc et
moi je le vois pas comme ça aujourd'hui, tu vois. Après je comprends hein, forcément ce que tu dis. Je pense qu'aujourd'hui, si on fait ça, par exemple, il y a des matchs qui seront mis en priorité. Et ça, c'est pas forcément bénéfique. Je veux dire, les supporters des petites équipes, imaginons demain, t'as un Angesco-Nantes, il y a une erreur d'arbitrage, t'as envie justement que l'arbitre vienne s'excuser, et on le fait pas parce que on estime que on doit mettre que 3-4 matchs par week-end où on a une explication d'arbitre, et donc on va prioriser un PSG Nice, un Lyon AS Monaco, alors que forcément peut-être que dans ces matchs-là les erreurs sont beaucoup moins flagrantes et donc l'explication elle ne devrait pas être forcément là.
Ouais, mais tu regardes, enfin le meilleur exemple c'est le rugby. Le rugby, quel que soit le match diffusé ou pas, il y a toujours les arbitres ont toujours les micros avec eux.
Ah oui, non, mais les micros en match, ça, par contre, moi, c'est une excellente idée.
Le rugby, j'y reviendrai après, ça empêche pas les petits scandales.
Ouais, mais c'est quand même moins souvent, tu vois. La normalité, on va dire, de jugement, elle est quand même beaucoup plus appréciable et ça fait aussi des années qu'ils ont travaillé là-dessus, au début.
Et puis le micro dans le stade aussi, quand il annonce quelque chose, tout le monde l'entend. Donc, ça peut aider aussi.
Peut-être, qu'on essaye sur des sélections, de faire déjà des tests là-dessus, mais le problème c'est que il y a la FIFA qui va dire oui, il y a UEFA qui va dire non.
Ouais.
Après ça va être ah oui, mais alors ça on va le mettre. Regarde ce week-end. La VAR en Ligue 2, pourquoi on la met pas?
Ouais.
Ça coûte rien. Enfin, ça coûte.
Bien sûr.
D'avoir un camion supplémentaire, mais en soi ça coûterait rien que la Ligue 1 et la Ligue 2 l'aille.
Le côté de camion, c'est un business, hein. Oui. Franchement, tu fais un truc à la Ligue, dans les locaux de la Ligue où tu fais venir les arbitres, ils viennent là et t'as pas de camion mais tout est à distance. C'est peut-être même mieux parce qu'au moins les arbitres sont pas dans le camion de la VAR qui est sur le truc, et je crois que c'est déjà le cas, ils sont dans les locaux en dehors, donc ça va heureusement maintenant, mais dans beaucoup de disciplines, faudrait qu'on peut-être, si un jour on parle d'arbitrage, je pourrais peut-être faire venir un ami qui est fan de NFL et qui adore parler de questions d'arbitrage là-dessus, et ils ont 15 ans ou 20 ans d'avance, donc à voir là-dessus.
Tu regardes au hockey, quand l'arbitre il a besoin de consulter, il va consulter directement, il voit les images du match directement, et il a pas 36 milliards de personnes qui vont lui dire « Ah mais si, mais en fait, t'as ça ». Non, c'est vraiment lui qui voit ses propres images, qui fait son...
Ouais, mais là en plus là c'est parfois c'est je trouve que là où c'est un peu biaisé, c'est que aussi on lui donne des angles de caméra choisi par l'arbitre.
Il faudrait que ce soit lui qui puisse décider.
Peut-être que ça serait un réalisateur.
Ça c'est dans tous les sports.
Ouais, mais je préférerais avoir un réalisateur où l'arbitre dit au réalisateur moi je veux tout, et où le réalisateur qui est d'un point de vue on va dire omniscient mais qui est pas partisan ou quoi que ce soit.
Il dit voilà, propositions aussi,
j'ai 10 angles de caméra à te montrer, je te montre.
Ouais. Regarde, aujourd'hui, on est capable de faire des vidéos pour la réalité virtuelle à 360.
Il y a peut-être moyen d'avoir par contre, niveau coût, etc.,
La modélisation, quand même, 3D, elle coûte très cher.
Parce que sur un terrain, c'est-à-dire qu'il faudrait couvrir partout au-dessus du terrain. Ça serait pas simple, mais je pense que ce serait pas simple.
C'est Galactic Football, quoi.
Non, mais comment?
C'est Galactic Football, quoi.
Exactement.
Non, mais au moins, par exemple, sur les surfaces de réparation, des choses comme ça, tu vois. C'est pas forcément au centre du terrain où tu vas avoir les plus grosses actions litigieuses sur les VAR, généralement.
Eric Marquinhos.
Bon, on verra ça dans les prochains jours, en tout cas, le débat sur l'arbitrage. On va voir si le fluide d'Aquilian est avec toi, Mathéo, pour la suite de cette chronique.
C'est gentil, je l'espère aussi. on va parler Coupe d'Europe. On va y aller match par match, finalement, pour justement faire le pronostic de chacun. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. On parle de tout le monde, on parle de tous les clubs, on parle de tous les matchs.
Tous les clubs français ou de tous les clubs?
Tous les clubs français, non. On va pas sortir.
Parce qu'on va quand même parler Formule 1 avec Cédric. Donc il faut du temps quand même.
Ouais. Et puis c'est vrai que les matchs Sparta-Prague, je sais pas vous, mais bon. Voilà.
Moi j'aime bien
aussi, hein. Mais bon, c'est peut-être pas la
peut-être meilleur que le PSG actuellement.
Et peut-être en effet. On va commencer par le PSG. Pourquoi pas faire un petit tour de table sur votre avis, justement sur PSG Bayern, cette rencontre. Amaury.
Oui. PSG Bayern. Le PSG qui réussit en Ligue 1. On n'a pas parlé aujourd'hui, non. On n'a pas parlé, mais PSG qui réussit plutôt bien en Ligue 1 depuis un moment. Et justement, où c'est plus compliqué.
Toujours invaincu, hein, le PSG.
C'est parti des rares clubs en Europe invaincus en championnat. Mais face à lui, il y a le grand Bayern de Munich. Le Bayern de Munich que l'on retrouve après une année dernière compliquée. Et un Bayern de Munich qui étrille souvent ses adversaires. Qui a eu parfois quand même du mal en Ligue des Champions, même s'ils ont gagné leur dernier match. Ils ont mis une volée lors du premier. Mais donc du coup, je pense que le Bayern fait office de favori au vu de sa saison. Maintenant, en fait, tout dépend aussi de quel pari on a. Est-ce qu'on a le pari qu'on a en Ligue des Champions qui, quand il est face au but, il marque pas. Et je crois que c'est l'une des équipes qui tire le plus et une des équipes qui marque le moins. De toute manière, en Ligue des Champions.
Ligue des Champions, c'est la pire attaque de Ligue des Champions.
Voilà, pire attaque, mais pourtant, ça doit être dans le top 5 des équipes qui tirent le plus et qui ont créé le plus d'occasions. Donc, en fait, si Paris met ses occasions sur ce match-là, bah ça change tout. C'est vraiment, t'as sur un match de football, il y a pas 15 buts. Donc à partir du moment où si tu mets déjà deux buts que où t'en as pas mis la fois d'avant, ça change beaucoup. Maintenant, je pense que ça a beaucoup joué là. Après, à voir au milieu de terrain contre le Bayern de Munich, on sait que c'est pas toujours simple. Et derrière, il y a Harry Kane en face qui enchaîne depuis le début de saison. Qui a encore mis un but ce week-end. Je pense qu'on l'a un peu tous vu passer avec un peu le logo de la Bundesliga, un contrôle puis le petit but de la tête derrière. Je vois le Bayern favori, mais je serais pas du tout surpris du bon match du PSG qui au final remarque ses buts et qui arrive à remporter.
Flo, victoire parisienne, essentiel.
Pas de score, pas de buteur.
2-1.
Paris. Ouais. Okay. Austin.
Moi, j'espère aussi une victoire parisienne. Mais sur le papier, je les vois pas favoris. Mais bon, si on doit faire un prono, allez, je vais dire un 2-0 Paris.
C'est honnête. Franchement, c'est honnête. Et toi, Cédric?
Bon, écoute, vu que l'Octobhausfest est passé, normalement, on devrait pas se prendre la gueule de bois. Mais je verrais bien un match nul. Hein. Franchement, Paris, il va falloir qu'ils élèvent leur jeu. Enfin.
Après, match nul contre le Bayern, moi, je trouve ça positif.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Ouais, mais il va falloir quand même élever le jeu, quoi.
Dans la situation du PSG, ils ont besoin de gagner, quand même.
Par rapport au classement, oui.
Voilà.
Mais sur la réalité du terrain, aller chercher la victoire. Ou alors, il va falloir nous sortir un gros PSG, quoi.
Donnarumma?
Je sais pas. Je pense que oui. Logiquement.
Il est pas blessé.
Mais c'est vrai que
ça commence à être un sujet, du coup, de Paris,
franchement. Ça fait des années que c'est un sujet.
Et puis de mon côté,
ça faut neuf. Bah en tout cas, okay.
Intéressant. Qui a fait 3 clean sheets sur ses 5 premiers matchs, donc quelqu'un d'intéressant. Et de mon côté, moi, je partirais sans doute sur, allez, soyons fous, 2-1 Paris.
Du coup, je dis 1-1.
J'espère une réaction. Enfin, ça serait franchement étonnant de voir un Paris Saint-Germain éliminé, dès la phase de groupe. De Ligue des Champions, on aura aussi Barcelone-Brest ce soir. On va juste rester sur les rencontres du soir pour pouvoir couvrir les autres sports. Mais rapidement, Barcelone-Brest.
Fin de la superbe série de Brest en Ligue des Champions. Même si Barcelone reste sur 2 défaites en championnat aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je sens une lourde défaite pour Brest. Et j'espère plutôt qu'ils vont se concentrer sur le championnat pour eux. Maintenant, même s'il faut continuer de prendre quelques points en Ligue des Champions pour s'assurer complètement de la suite. Je dirais 3-0 Barcelone, malheureusement pour Brest. Pas que je les sous-estime ce début de saison.
Match nul.
Rouleau compresseur allemand. Match nul.
Un match nul, un but partout.
Ah ouais, un but partout. Ouais. Ok, franchement, c'est une belle prise de risque.
Ouais, j'ai fait les grosses cotes en fait.
Comme ça, on est deux.
Brest pour Paris, pour Brest.
Moi, je suis un fan de Barcelone, donc évidemment, victoire barcelonaise.
Vendu.
un bon 4-0 ou 4-1.
Carrément.
C'est extrême.
T'as cru que c'était la kermesse là.
Mais Barcelone, il y a des scores en Ligue des Champions depuis le début de la saison.
Mais là, c'est Brest.
Ah mais c'est Barcelone.
J'adore la prononcer, vraiment, je pourrais la prononcer des années durant.
De quoi?
La phrase là.
Mais là, c'est Brest.
Barcelone perd contre le Real. Le Real perd contre Brest. Brest.
Ah, Brest, c'est Lille qui a battu le Real.
Ah, faut pas lui dire.
Ah, peut-être que Brest a battu Lille.
Voilà.
Franchement, je sais plus.
Ça
m'étonnerait qu'ils vont les battre. C'est la dernière journée, je crois, que
mais donc,
le Real se déplace au Roudourou. Et toi, Cédric?
Moi, je dis victoire des B. Match nul.
Combien?
Pour un petit 1, ce sera très bien. Ce sera dans la continuité. Je pense qu'en fait, Brest joue tellement libre, en fait, cette compétition-là. Je pense qu'ils vont continuer comme ça. Et en soi, de toute façon, s'ils perdent contre le Barça, ce sera. Et qu'il y a la façon aussi, ce sera déjà une belle victoire pour eux.
Sachant qu'il n'y a pas Lamine Yamal, je crois, ce soir. En tout cas,
c'est bon.
Le Barça sans Lamine Yamal depuis le début de saison, c'est 3 matchs et 3 défaites.
Voilà. Non, c'est une belle statue.
Ou 3 fois où ils n'ont pas gagné, en tout cas.
Je suis contre Alavés la semaine dernière.
Ah, je change mon prono alors. Voilà, j'allais dire 3-2 pour le Barça. Voilà, exactement. 10-0 Brest. Non.
Il y aller ce soir.
Je pense que.
Match en top hiver.
je vais tenter la même chose que toi, Flo. Je vais dire un petit de partout.
Ouais, pourquoi pas. Faut tenter.
Ce serait assez beau. Voilà.
Costin est dépité.
Ça va, il a pas mis le maillot ce soir.
En même temps, t'imagines si Brest gagne, enfin bat à Barcelone et que dans le même temps, en plus, Toronto a perdu contre Détroit il y a deux jours.
Au buzzer
en plus. Donc, pour lui, sa semaine est finie.
Ah, ça voudrait dire que Brest a le niveau pour jouer en Liga.
Ouais, voilà. Exactement.
On va pouvoir enchaîner là-dessus sur de la Formule 1 pour faire plaisir à Cédric et même à tout le monde. Et quoi de mieux que la folie de Las Vegas pour fêter un titre de champion pour Max Verstappen? Pas grand-chose, j'ai envie de dire. Je pense que le Néerlandais avait la même chose en tête dimanche au moment de s'élancer de la cinquième position de la grille de départ. Pour être sacré champion aux États-Unis, il suffisait d'être, entre guillemets évidemment, de faire un meilleur résultat que Lando Norris ou de concéder que un petit point sur l'anglais. Mais le pilote McLaren n'a jamais été vraiment en mesure d'inquiéter Max Verstappen, qui finit cinquième juste devant Norris, mais qui est assez loin en termes de temps. Et donc le Néerlandais décroche ce week-end son quatrième titre de champion du monde, le plaçant au même niveau que des légendes comme Prost et Vettel. Qu'est-ce qu'on a pu penser peut-être de cette course? Déjà, Cédric, tu nous en disais pas que du bien, et peut-être après un avis sur ces quatre titres de Max Verstappen.
Eh ben, le meilleur moment de ce week-end à Las Vegas, c'est l'annonce sur la sphère qu'il va avoir plein de Lego F1. Non, oui. le Grand Prix, franchement, décevant. Enfin, il s'est rien passé. On a eu une petite attaque de Norris en début, mais vite fait, ça a pas collé. On a vu très bien que c'était fini. Donc, manque d'intérêt. Ça s'est un petit peu quand même bataillé devant. On notera quand même
le remonté d'Hamilton.
Voilà, qui part de la dixième pour finir deuxième. À un moment, j'ai même peu de cru, peut-être qu'il y aura une consigne d'équipe pour la dernière à Las Vegas en termes de com.
Mais il va partir, Hamilton.
Oui, mais tu vois, c'est son dernier Grand Prix aux États-Unis
sous McLaren.
En plus, on sait qu'il y avait Brad qui était là, qui a tourné une super scène. Pour son film à nouveau, ouais. Ça commence à faire peur ce film d'ailleurs. Mais voilà, non. En tout cas, il y avait. Moi, je me suis dit, ouais, c'est bon, Hamilton va passer devant. Comme ça, dernière victoire. On passe, on clôture le chapitre. Finalement, il n'y a pas eu de consigne d'équipe, ce qui est très bien. Ouais. Et puis, bah voilà, au sacre de Verstappen. J'ai envie de dire, pas son meilleur sacre cette année. Pour moi, au point, il est gagnant. Mais au vu des différentes actions qu'il y a eu, litige, mais voilà, on parlait tout à l'heure de l'interprétation des règles tout au long de la saison avec la FIA sur les mêmes types d'actions de sortie de route, de coupure, de chicane, des trucs comme ça. Il n'y a jamais eu de décision logique. Voilà, bah c'est au final son sac que je déteste le plus, je vais dire.
Ah oui,
comparé aux autres,
je suis
clairement.
Je suis à 100% à l'inverse.
Est-ce que Norris, enfin, pour faire un peu un parallèle avec le sport US et notamment le basket, est-ce qu'il aurait pas de choc, Norris?
Si, complètement.
Pour rappeler à nos auditeurs, est-ce qu'il a pas été faible mentalement, on va dire?
Mais
voilà.
En fait, pour moi,
je note le petit jeu de mots. Du coup,
de quoi? Choc Norris.
Non, mais pour moi, Norris qui a eu une meilleure voiture que Max Verstappen sur une grande partie de la saison, c'est là où moi en fait je trouve que le titre de Max Verstappen est peut-être son plus beau parce qu'en fait cette année il a dû se battre complètement avec plusieurs autres concurrents, avec Norris à un moment, avec Leclerc à d'autres moments, et en fait
avec Piastri aussi, par une séquence,
avec quelques fois les Mercedes, et en fait c'est une saison qui a été beaucoup plus resserrée entre tous les leaders, et voir que malgré ça à la fin c'est encore lui qui gagne, et c'est encore lui qui fait le moins d'erreurs l'amenant au titre. Contrairement à Norris, qui lui, du coup, avait peut-être une meilleure voiture, à un moment dominé, où Verstappen était beaucoup plus loin parce que, la voiture suivait pas, c'est aussi la loi de la Formule 1. Mais Norris, lui, a fait des erreurs là où il fallait pas. Il est sorti une ou deux fois, il a planté la voiture. Il a surtout.
Le Brésil aussi.
Il a surtout, perdu des places bêtement. Et donc des points. Et je pense qu'en fait, le meilleur pilote, pour moi, a gagné cette année. Sur les autres années, en fait, Verstappen, oui, il faisait pas beaucoup d'erreurs, tout, mais il était tellement devant au niveau de la voiture, et Perez lui apportait tellement peu de concurrence au sein de Red Bull, ce qui est encore plus le cas cette année.
Ah, ben, c'était
avec une voiture moins bonne. Et moi, j'espère que Perez, c'est fini à la fin de l'année, du côté de Red Bull.
Ouais, mais ce serait pour mettre qui en face aussi?
Oh, il y a
Du monde.
Mais concurrencer dans l'écurie Red Bull derrière.
Non, mais pour concurrencer réellement.
Mais dans l'écurie Red Bull, je pense que je prends même un Lawson. C'est.
Tu mettais n'importe qui dans la voiture de Perez, c'était le même souci. Il y a eu deux développements en fait de voiture au final.
Ouais, après, c'est tout pour Verstappen. Aussi,
c'était tout pour Verstappen et on l'a vu tout de suite.
Mais hein, bon, Perez, il fait quand même des erreurs et.
Après, il y a encore deux courses pour en débattre.
Et pour le championnat constructeur, qui lui n'est pas terminé.
Ouais, il y aura compétition
Ferrari
jusqu'à la fin.
Ferrari est toujours là.
Bon, dans la course au titre pour remporter le championnat constructeur. On va s'excuser auprès de nos auditeurs. On parlera rugby tout au long du Six Nations. On aurait pu parler rugby ce soir, mais on a préféré parler Formule 1. On se retrouve donc la semaine prochaine avec des invités, les Eagles de Saint-Barthélemy. On parlera baseball la semaine prochaine au sein de Génération Sport. On est ravis en tout cas d'en parler avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Faustin, je te laisse clôturer l'émission. Régale-nous. On va parler de quoi là? Non, il y a pas d'émission juste après?
Ah si, évidemment. Mais pardon, j'avais mal compris ce que tu voulais dire. Mais oui, c'est Imaginaire qui arrive dans le studio de Radio G juste après nous.
C'est parfait. Bon, ciao, passez une bonne soirée.
Le jour où on m'a dit va